Alors, on va écouter Jacques et ensuite on prendra les questions pour l'ensemble des communicants, si tu le veux bien.
Oui. Hein. Tout d'abord, merci de votre présence. Je voudrais aussi remercier Luc et Solveig pour nous donner la parole. Le punk de banlieue, surtout des années 80, n'est pas souvent chroniqué. C'est pour nous une belle occasion. En tout cas, j'essaierai de les représenter, de faire connaître ce que nous avons vécu. Je remercie aussi Natacha pour l'aide qu'elle a apportée à la rédaction de ce que je vais vous lire. Le diaporama qui est derrière moi et que je vais essayer de faire défiler est une collection d'images et d'affiches de l'époque. Après avoir raconté mon adolescence punk en banlieue au début des années 80, je tâcherai de justifier et la permanence du punk de banlieue et la caducité de la vague punk parisienne comme elle s'affirme. Enfin, j'envisagerai ce qui fait du punk quelque chose qui, 40 ans après, continue de fasciner et d'attirer les générations. J'ai fait partie de différents groupes entre 1984 et 92. En 86, j'ai animé une association de répétitions et de concerts dans la vallée de Chevreuse. En 88, administrateur d'une MJC à Gif-sur-Yvette, dans l'Essonne, j'ai organisé des festivals à partir du circuit des MJC MPT. Mon groupe de garage punk, les Poupées Fantômes, a fait une quarantaine de dates à Paris, banlieue et province. De 97 à 2002, journaliste à Nouva Magazine, j'ai ouvert l'agenda aux scènes indépendantes et aux salles de petite et moyenne jauge de Paris et sa périphérie. Nova Mag sera un des vecteurs de retour du rock sous la direction d'Emmanuel Tellier de 2000 à 2002. De 2004 à 2006, j'ai créé et animé une rubrique du site de la SACEM dédiée à la nouvelle création francophone. Et en 2006, j'ai réalisé et autoproduit un documentaire sur la scène garage punk féminine « My Sister is a Punk Star ». Je suis arrivé aux Ulysses en 77 à l'âge de 14 ans. C'était l'été de la mort d'Elvis et celle du jubilé d'argent de la reine d'Angleterre, perturbée par une poignée de crétins sur une péniche. Ça faisait rire les collégiens, mais pas les Teddy Boys de la vallée de Chevreuse ni les rockers des Ulysses. En 77, la banlieue est à l'air baba cool, avec d'un côté du free jazz et de l'autre de la samba à papa. Quelques babas attendent de partir à leur tour en Lozère. L'extrême gauche survit en attendant la révolution avec des groupes comme 12 degrés 5, Mama Béa, Catherine Ribeiro. Tous les jeunes écoutent du disco. Dans les booms, le punk arrive avec le hard rock, tandis que le glam, lui, coule comme un mauvais rimmel. À Paris, au hall, dans le métro, on croise des punks de notre âge, au look extrême, et on veut savoir. Olive Einstein, Metal Urbain, Stinkin' Toys, Bulldozer, Gasoline, ils sont comme nous, jeunes et déconneurs. Le punk est l'occasion de se démarquer d'une droite ringarde et d'un gauchisme culturel dogmatique. Sa provocation est axée sur la dérision, l'acceptation de la violence et toutes les libertés, et ça nous va très bien. À 15 ans, la norme est aux cheveux longs. Or, les cheveux, ça met du temps à pousser, quoi. On en a marre des poseurs, on n'aime pas le disco. Les derniers hippies tournent à l'héros tristement dans leur coin, ils ne font pas envie. 10 ans après 68, les lycéens, germes d'une révolte possible, sont sous tous les regards, on sent qu'on a le pouvoir. Le scénario est le même dans chaque métropole régionale. Une scène punk née dans le milieu bourgeois étudiant, petit bourgeois même, ou lycéen, avec comme public les amis de lycée, étudiants et artistes locaux. Un groupe surfe sur la vague, enregistre, fait la une des médias. Bordeaux, Rouen, Rennes, Lyon, Paris. Puis de 78 à 80, à Orsay comme à Paris, les premiers punks seront artis, issus des écoles d'art ou appelés à évoluer dans ce milieu, comme mes copains de classe de latin, Pierre Huyghe et Klosky, qui sont devenus les frères Ripoulin. Après plusieurs renvois du lycée et pas mal d'heures à étudier la contre-culture californienne et à traîner dans les rades de ma banlieue en 50, je rejoins une bande à la MJC d'Orsay. Hard, skin, punk, freaks, on a un peu tous les mêmes problèmes avec nos parents. Il est surtout difficile d'échapper à la bande des rockers des Ulysses. Ils nous attendent aux gares, les centres commerciaux, dans le dernier RER de retour de Paris le week-end pour rançonner, dépouiller, tabasser tout ce qui n'est pas rockabilly. Il est difficile d'aller à Paris sans tomber sur eux ou sur une bande de skins. Si la fête se termine après le dernier RER, on zone au hall en attendant le premier train. Être punk en banlieue, c'est choisir de vivre seul, rejeté par tous et menacé physiquement. Autant décider de son destin en devenant punk. À Orsay, on écoute les Damned, les Dead Kennedys, Plasmatic, Discharge, mais aussi Crass, GBH, les Foreskin, Exploited, la musique pour aller se battre. Looké comme Sid Vicious, Bruno, avec nous, c'est une vraie teigne, idéale pour aller défier la dictature rockabilly. On le suit dans ses coups souvent foireux, la plupart du temps on fait masse, on sait se battre, mais on n'est pas des bêtes de guerre. Alors les premiers rockabilly ont enrôlé une bande de jeunes rebeux qui, eux, ignorent les codes d'honneur de la bagarre de banlieue. Comme les skins, ils tabassent à plusieurs des victimes isolées, choisies au hasard pour faire régner la terreur. Le week-end, la banlieue s'enferme dans la peur. Le jour, chacun se cherche. Le soir, il ne se passe rien. Sans voiture, aller à Paris est dangereux. Derrière moi, les rocks des Ulysses. En 1982, on organise 3 événements à la MJC de Bure. Pendant la projection de Quadrophénia, les rockabilly nous assiègent et caillassent la MJC. Lors d'un festival de hard rock où on a incrusté des groupes punk et new wave, 30 rockers battent en retraite face à la Raya Punk qui, cette fois, est venue des Halles. On récidive en invitant les Spoons, Wonderbar, Arthrose Panzer, Dissolution, Les Cadavres pour le premier festival punk de la vallée. Le groupe Charnier, d'Orsay, derrière moi, 15 ans de moyenne d'âge, joue en dernier. Il provoque les rockabilly qui sont venus à 50 avec une hache et des manches de pioche. Or, les Iroquois de Paris ne sont pas là cette fois-ci, les skins promis par Bruno non plus. La suite dégénère en une bagarre générale avec plusieurs blessés graves. À la rentrée, la MJC d'Orsay transforme notre bâtiment en crèche, chacun repart avec ses problèmes. Devenu skin, Bruno se tatoue fait en France sur le front, traîne à Saint-Michel, au Hall, avant de partir apprendre le karaté en prison. Charnier monte en puissance, joue avec les Ludwig à l'usine, enregistre pour New Wave Records. Personnellement, je reprends mes études, compose, répète, sors. Sur les radios libres, la scène devient excitante, multiple, variée. Le punk est là, brouillon et insolent. En 82-83, on est passé d'un punk créatif, drôle, vif, destroy, à quelque chose de plus violent, dont personne n'a vraiment idée. En 83-84, la délinquance change aussi de visage. Il y a un nuage d'héroïne qui s'abat en même temps partout sur les banlieues. Certains des vieux rockers sont en prison, les plus jeunes deviennent zoulous, puis rappeurs, se battent avec les Rastas pour le contrôle de la vente du cannabis. Ils nous oublient. Après avoir adopté Banane et Santiago, la jeunesse maghrébine vire au hip-hop après un détour avorté par les idéaux de la Zulu Nation. Ces revendications ne sont pas culturelles, mais territoriales. À l'utopie banlieusarde des 70s est venue se substituer, 10 ans après 68, une guerre de culture, une guerre de mode, une guerre de genre. À Paris, une production alternative se structure. La gauche libertaire offre au groupe qui lui plaise son expérience et ses structures. Bondage joue le jeu, Boucherie joue surtout pour sa cour. Les Bérus, au départ des rockers maudits comme nous, deviennent un groupe de gauche. Les compiles KO et 77 KK viennent confirmer qu'il existe pourtant un mouvement de fond, sans récupération politique ou commerciale. À Juvisy, Goumiaf Mouvement offre une vraie alternative et une possibilité d'enregistrer. L'Infanterie Sauvage, 13e section, Trotskids, RFC passent sur les ondes. J'anime une série d'émissions sur Radio Village, des fanzines apparaissent, le milieu se structure. Le rock se métisse au punk, et le garage punk revient en force, avec des groupes comme les Coronados, Pasadenas, les Vampas, les Witches Valley. En 87, de retour de l'armée, je reprends une association. Notre local est une ancienne crèche pour enfants handicapés dans la forêt de Boulay-les-Trous, loin, très loin du Rose Bonbon et du Palace. 7 groupes y laissent du matériel, les cadavres s'y reforment avec Charnier. En 4 ans, une vingtaine de concerts dans la MJC de la région attirent un public étudiant important et beaucoup d'autres jeunes qui s'ennuient. Pour 30 francs, on propose 3 groupes pour 100 personnes. 2 services d'ordre du Fahrenheit, Sergio et le Gaulois, dissuadent les gêneurs. On s'initie à la régie, aux lumières, au son. Je paie tout le monde. Les poupées fantômes répètent à Paris au studio Forbidden. On y croise les Vampas, les Washington Dead Cats, Chihuahua, les Monotones, Roadrunner. On joue au New Moon, au Gibus, au Blues du Nord, époque Mani, avec les Baroques, dans pas mal de squats MJC de Paris et province. Il y a un vrai son français, et nous, notre inspiration Radio Birdman, Gun Club, Dead Boys, nos textes en anglais s'accordent mal à une scène polarisée, plus politisée. Les rats, les dealers, shérifs, OTH, Parabellum. En 89, après avoir donné l'exemple d'une récupération politique libertaire, Bérurier Noir se saborde dans un Olympia rempli de jeunes, avec les mêmes Harrington, les mêmes docs, et levant le poing en même temps sur un refrain antifa et une symbolique terroriste qui nous échappe un petit peu. À 15 de notre vallée, on était juste venu supporter les cadavres en première partie. Le Cirque Ludwig remplace les Bérus, le marché français se structure autour de courants marquetés, les labels et assauts existants filtrent à mort, on veut bien de nous comme public, mais c'est tout. Pas de réseau, pas de médias, pas de contact, pas de structure de production légère pour enregistrer, diffuser, tourner au plus près des répètes et des concerts. La moindre journée de studio coûte un bras. Après un titre sur une compile, loin de nos révoltes adolescentes, notre groupe se dissout avant nos 30 ans, en 92. Une asso mieux structurée a vu le jour à Bure-sur-Yvette, la JB, et assure la programmation de la vallée, toujours punk. Paris, en pleine guerre des looks, s'est pris au sérieux. Or, en 83 et 84, je vois exactement l'inverse en Europe. La scène y est un lieu de mélange où skin, punk, rockers sont conscients d'appartenir à une même culture rock globale. Des lieux autogérés proposent activités culturelles, musicales, bars, forums associatifs, de l'information, mais d'abord de la culture et de la démerde pour des jeunes pas forcément étudiants. Des plans anti-galère pour devenir autonome, mais pas pour devenir un autonome. À Copenhague et à Stockholm, on trouve le Huset, à Amsterdam, le Melkweg, à Munich, le Capucine Herzl. Les collectivités soutiennent des équipes sans chercher à les noyauter, comme à Paris, plus tard avec l'usine éphémère. En France, ce modèle-là fait peur. À Montreuil, l'expérience de rock à l'usine finit mal. Avec la première cohabitation, l'amalgame punk et terrorisme hante les esprits des anciens du sac. Les punks sont perçus comme des terroristes, de droite ou de gauche. Or, leur subversion reste avant tout symbolique. Pour échapper aux tentatives de manipulation des officines et détraqués de tous bords, ils choisissent anonymat et discrétion pour vivre avant tout autour de la musique. Ils s'éloignent alors de toute prévention sanitaire ou sociale et vont en payer individuellement le prix. Les journalistes parlent de la musique qu'ils reçoivent dans leur corbeille à la rédaction. Pas de disque, pas de diffusion, pas d'existence. Les pionniers de la vague punk parisienne n'ont rien préparé pour leurs successeurs, si ce n'est leur procès en délégitimation, encore actuel. Les punks de 77 avaient sans le savoir un futur, et les punks de banlieue sont cet enfant dans le dos. Il n'y aura pas de place pour eux, pour nous, pas de reconnaissance, pas d'héritage. La querelle entre les anciens et les modernes fait toujours rage. Les gardiens du temple, autoproclamés, rabâchent une généalogie de héros fondateurs d'un mythe disparu, basé sur le chaos, la destruction, avec lequel on ne pourrait communier qu'en se détruisant soi-même ou en se recyclant dans la pop. C'est pas très iconoclaste comme punk. Les premiers, les punks parisiens et rouennais historiques, ont, de 76, voyons large, à 78 pour être généreux, vendu des disques, fait la une des médias, puis plié bagages, fidèles à la devise Nos Futurs. Un an et demi après, les groupes split, décrètent la mort du mouvement, empêchent toute succession possible, puis gèrent plus ou moins bien leur légende. La plupart de ces musiciens viennent du rock, ils en maîtrisent les codes, ils les appliqueront au punk avec la même morgue, le même élitisme sur une base destroy. Pour eux, le punk est un moyen d'attirer l'attention des médias avant de faire de la pop grand public ou de rentrer dans le rang. Ils redoutent la vie de la foule, verrouillent les médias, ce dont on ne parle pas n'existe pas. Ils réduisent l'offre afin de mieux contrôler la demande, avec cette excuse, le punk français c'est mauvais. L'effervescence d'une scène passe du coup inaperçue, tout comme le fait que Asphalt Jungle c'est plutôt du rock tendance polar, que Marie et les garçons c'est de la pop de club. Ce clubbing punk est l'écume chicose d'une vague bien plus importante. Metal Urbain, qui a quand même signé chez Roof Trade et enregistré pour John Peel, les Tugs sur Sub Pop, Oberkampf, Wunderbar, les Olivenstein qu'on fait passer pour des fachos, etc. Formés en 83, les Vampas attendront les années 2000 pour trouver une exposition médiatique. Casse Product, groupe phare mondial de la New Wave, créé en 1980, a dû attendre les années 2010. Les modernes sont la majorité des punks d'après 78, venus de province ou de banlieue sous la bannière du Punk's Not Dead. Ils ont fait d'une attitude un style, une mode et un mouvement. En Belgique, en France, Angleterre, Australie, USA, ils inscrivent le punk comme une tendance lourde de l'histoire du rock. Ils ont très peu enregistré ou été chroniqués. Pire, punk de banlieue, c'est devenu un terme péjoratif, synonyme d'échec, d'absence de clairvoyance et de loose totale. Un peu au-dessus du punk à chien, lui-même synonyme de suicide social, d'intégration à une hiérarchie de la rue, au final, assez conformiste. Alors, retour sur la genèse du mouvement. Pourquoi la banlieue ? Les banlieues sont des lieux au banc de la ville, près de tout, mais au milieu de nulle part. Chacun y vit dans sa bulle. Vers 75, les religions sont déclarées mortes, les schémas collectifs hérités sont tournés en ridicule, il ne reste qu'une solitude extrême face à son caddie. L'individu devient la clé de voûte de la société de consommation et contrôler son impulsion d'achat est un enjeu fondamental. La musique devient le lien d'une jeunesse en majorité blanche qui cherche à imposer sa grégarité autour d'une mythologie importée, en ressuscitant les valeurs de la génération précédente, rébellion contre les carcans idéologiques et économiques, résistance, unité, autonomie, mixité, diversité, tolérance. Or, elle ne sera jamais reconnue comme interlocuteur valable par les institutions. Pourtant, les punks de banlieue ont constitué l'essentiel du public des concerts, des activistes associatifs dans les 80s et les 90s, et continuent à entretenir la flamme. En 78-79, les groupes se sont créés en banlieue pour secouer la chape de léthargie baba disco de ce qui sera appelé la bof génération. La multiplication des radios libres donnait accès à une programmation internationale, enregistrable sur cassette. Les artistes parisiens ont saisi très vite l'occasion de faire du punk un truc chic et destroy. En revanche, les graffitis, qui étaient au départ dans la lignée de 68, expressifs, drôles, deviennent en 1980 des tags territoriaux, des graves d'inspiration américaine. Paris concentre pourvoir, argent, richesse, culture et plaisir. Or, sa banlieue impose la banalité. Paris y relègue ce qui le menace, est trop cher ou inexploitable. Le punk assume d'emblée ses derniers statuts, inexploitable, trop cher et menaçant. De banlieue, on est de nulle part, où que l'on aille, on n'en sera jamais. La jeunesse blanche de banlieue, sans racines ni base arrière, devient la plus défavorisée, dès lors qu'avec la crise, l'avenir lui échappe. Or, elle aime sa banlieue, et elle veut écrire son histoire. Le terme « jeune de banlieue » lui porte un coup fatal. Ce terme global, élu de l'origine, un politiquement correct qui fond l'identité et les aspirations de la jeunesse blanche avec celle du groupe le plus violent que l'on invite ainsi de nommer, la jeunesse d'origine africaine qui finira par créer la culture dominante des banlieues, lui donner son accent, ses valeurs et son langage. En 1985, l'opération Touche pas à mon pote consacrera cette dissolution. Les générations immigrées deviennent des victimes à protéger de la violence des blancs. Il devient tabou d'affirmer que dans la pratique, c'est plutôt l'inverse. Délégitimés, les jeunes blancs doivent accepter d'être des salauds en puissance ou la fermer. Les assauts des quartiers deviendront les principales cibles des politiques urbaines. La jeunesse blanche manque l'occasion d'organiser, intégrer, bref, faire valoir ses valeurs de mixité, diversité, solidarité. Exclus de la fête, certains rejoignent une extrême gauche contestataire. Ils ne seront pourtant jamais les interlocuteurs d'une gauche qui, au gouvernement, préférera s'adresser aux populations immigrées plutôt qu'aux white trash babies. Quant à la droite, elle nouait, sauf vous, monsieur Santini. Do it yourself, c'est fais-le tout seul ou crève en silence, mais surtout, ne nous casse pas les noix. Alors, la couronne de Paris est composée de rayons identiques en une strate d'urbanisation dégressive irriguée par un RER. Et ces rayons sont les mêmes où que l'on aille, au nord, à l'est, à l'ouest de la couronne. Autour d'un centre-ville, des pavillons, des cités, un hypermarché, des zones industrielles, un RER, un stade, un gymnase, une MJC. Cette uniformité touche à l'universalité, le punk va s'organiser partout de la même façon et en même temps, et plus facilement de banlieue à banlieue que vers Paris. La seule structure culturelle commune est le réseau des MJC et des SMAC. Avec 4 MJC, la vallée de Chevreuse offre une continuité territoriale, sociale et culturelle. L'explosion punk aura lieu à l'ouest vers Nanterre, Sartrouville, Houille, à l'est à Nogent et au Péreux, à la MJC Victoire Jara de Champs-sur-Marne avec Capsule Rock, plus au sud à Juvisy, Ris-Orangis, au nord vers Roissy. Les Rockabilly, qui tenaient à ce moment-là le pavé, qui était issu des bandes de voyous des années 60, peu enclins à la mixité culturelle, ont fini par laisser la place à des bandes se revendiquant du rap et d'une culture de gang américain ultra-libérale, territoriale et raciste. Le punk est dénoncé comme une culture blanche, violente et dépravée. Donc, le maintien du punk en banlieue s'explique par la résilience des damnés de la banlieue, tout comme la nécessité d'un rituel, en attendant la guerre et le chaos pour le passage à l'âge adulte. Le punk est le fruit d'une Angleterre épuisée, brisée, d'une Amérique lasse de ses guerres, d'un continent européen à la recherche d'une identité universelle face aux crises et à la menace récurrente de l'abattage des jeunes générations tous les 30 ans dans les conflits mondiaux. 77-1945, 30 ans. Au lieu de déstabiliser les jeunes générations occidentales en érigeant le crétin ignare, violent mais sexy comme une icône, les laissés pour compte se sont appropriés cette musique, ce comportement, cette révolution esthétique. Face à la crise, en appliquant le « do it yourself », ils ont créé du lien social, une culture, des labels. Les premiers punks hors circuit sont restés ingérables, fidèles au mot d'ordre, pas de récupération, ni politique, ni commerciale. En exprimant la mort comme perspective enviable parce qu'inéluctable, la démarche punk revendique la lucidité et signifie l'impuissance et l'insignifiance de toute figure humaine. Comme le rock, le punk répond d'abord à un besoin de testostérone et d'adrénaline d'une jeunesse, à son besoin de grégarité et de rituels transgressifs. Pour la première fois, les filles rejoignent les garçons pour être au premier plan et pas pour jouer les utilités d'après-concert. Genre, je te ramène. Voilà. En 1980, la musique est un bastion à investir. Le rock est figé dans la gomina, le disco est de la musique à danser, un anxiolytique puissant et synthétique. Le son devient le vecteur, les slogans une dénonciation, une injonction permanente à être autre chose. Le concert est un moment de fusion urgent, ultime, incontournable. La dimension danger est réelle. Parvenir à une salle et en partir sans encombre, un sport difficile entre les bandes de rappeurs, de rockers et de skinheads. De fantasmatique, le concert devient un espace à conquérir, protégé, unique, le lieu d'une transe collective qui expurge la violence par une violence ritualisée, le pogo, partagé avec cet autre soi-même qui est le voisin, le copain, l'inconnu. Il y a finalement un parallèle entre un rituel traditionnel et un concert de punk. Les chanteurs et les célébrants sont un axe central, un horizon indépassable devant lequel s'assemble une foule en strates concentriques, avec au milieu ceux qui viennent chercher l'épreuve du choc, dans une société où tout contact physique est interdit, interprété, compromis. Le chanteur se sacrifie, se scarifie, s'offre comme victime consentante à la foule en incarnant son songe. Il y a une unité de temps, de lieu, l'endroit est gardé, la bière présente. Les drogues y ont aussi été présentes sans qu'il n'y ait jamais eu de prosélytisme de la part des groupes en France, autre que symbolique ou esthétique. Il est fréquent que du public, le spectateur passe à la scène. Le public punk forme une sorte de tribu improbable à entrée libre, à l'inverse du rockabilly où se connaître puis se défier et s'affirmer par la danse ou la baston sont des préalables avant d'être intégré à un groupe, d'où l'exclusion peut être aussi violente. Apparu en réaction au consumérisme, l'individu est le pivot central de l'expérience punk et reste libre. L'expérience d'un concert punk serait l'intériorisation de ses propres limites, la prise de conscience, l'affirmation puis la volonté de dépasser cet état. Les frustrations sont exprimées, revendiquées, expiées. Dans ce rituel de transformation par le choc, on laisse une certaine identité, une image de soi, pour faire l'expérience de son soi au milieu des autres, en acceptant la violence de la confrontation et surtout d'y jouer un rôle. Les choix d'attitude, posture, inspiration ont été copieusement explorés, interprétés dès les premières années du punk. Aujourd'hui, combien de clones de Sid Vicious, Johnny Rotten, Paul Simonon ou Joe Strummer ? Comme au théâtre, chaque soir est une nouvelle réinterprétation d'un mythe, d'une tragédie, d'un monde, à la différence que ici, chacun par sa présence, son look, son attitude en est aussi l'acteur. Le monde parisien s'est toujours montré réticent à intégrer des musiciens ou des groupes venant de banlieue. La France a fonctionné comme un petit marché avec des parts non négociables. En banlieue, le punk s'est hybridé au rock, mais aussi au rap, pour produire une musique puissante. Le garage a fait son retour avec le surf, mais aussi le hardcore, la fusion, puis tous les genres de musique métal. Cela a été possible grâce au réseau de salles mis en place dans les années 80, le circuit des MJC et Maison pour tous, conséquence de l'éducation populaire, et aussi de l'émergence du 21 juin, un exutoire facile, une épreuve du feu, puis l'intermittence du spectacle a permis de fonctionnariser les acteurs de la scène punk et rock, pour le meilleur et pour le pire. Sans la vague punk, l'engouement n'aurait pas été le même. Sans médias autres que des fanzines et quelques radios, cette scène a pu exister et durer. L'absence de soutien a aussi été institutionnelle, avec une redirection des subventions dirigée dès le début des années 80 vers les quartiers, vers des cultures identifiées comme adoptées par la population immigrée, le rap, le tag, le hip-hop, etc. Les assos de blancs, considérés comme petites bourgeoises, n'ont jamais vraiment été soutenus ou considérés. Avec des kits amplificateurs plus guitare à 100$, Monsieur Fender donnait un média à la jeunesse des zones suburbaines, en Amérique comme en Europe. Elle s'en est emparée pour recréer ce dont elle avait besoin, un rite de passage. Brutal, cynique ou charmant, mais une occasion de vivre ensemble un truc fort qui n'est pas la guerre, mais qui y ressemble, et qui n'est pas l'amour, mais sans en être dénué. Une musique qui pose les bases de nouvelles interactions avec les autres, en acceptant la violence comme nécessaire à l'expression de sa propre vie. Le danger serait de réduire le punk à sa seule noirceur, à la fascination qu'il exerce sur ceux qui se délectent de sa morbidité, de la chair juvénile offerte en carnage, même musicale ou photographique. Au cours de son histoire, le punk s'est érigé contre cette exploitation, par une génération héritière de l'esprit de la résistance, résistance contre le totalitarisme et l'exploitation, l'oubli et le renoncement. Le punk est un des derniers continents noirs de la République. Il est surtout une boule d'énergie qui n'a pas fini de tourner. Et enfin, je conclurai avec cette phrase propre aux parachutistes, comme aux rockers, comme aux punks, vivre vite, mourir jeune et faire un beau cadavre. La mort a toujours été présente comme une urgence à prendre de vitesse. Nous sommes nombreux dans cette salle à déplorer l'absence de beaucoup de nos amis d'il y a 20, 30 ou 40 ans. Personne ne peut toujours protéger l'autre contre ses propres démons, contre des prédateurs opportunistes ou ceux qui souhaitent la destruction d'une jeunesse pour eux immorale. Leur absence montre la violence de la réalité qu'a dû affronter ce mouvement pour tout simplement exister. J'en ai terminé, je vous remercie de votre attention.